Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast du Journal des Tribunaux. Je suis Georges Albert Dalle, rédacteur en chef du Journal des Tribunaux, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec vous, chers auditeurs, Laurent Dujardin, qui est avocat et professeur à l'UC Louvain. Et il a rédigé l'article du Journal des Tribunaux intitulé Commerce électronique 2. La nouvelle donne, cet article qui est consacré au formidable, je reprends ce terme, coup d'accélérateur du commerce électronique. Ce numéro sortira le 26 septembre, portera la date du 26 septembre. Il sera disponible aux abonnés du JT dans la foulée ainsi que sur notre site internet larcier.com. Et au cours de cette émission, nous allons faire le point sur le développement du commerce électronique stimulé par la crise du Covid. Laurent Dujardin, stimulé, je crois que tout le monde a bien compris, mais décrivez-nous exactement l'incidence de la crise actuelle sur quelque chose qui existait déjà au fond.
Oui, bonjour tout le monde. Alors, en ce qui concerne le commerce électronique, on a vu son développement progressif ces dernières années. La question se posait encore pour certaines marques il y a 5 ou 10 ans, va-t-on être sur Internet ? La question ne se pose plus, tout le monde doit y être. Et ce qu'il faut constater qu'avec cette pandémie, c'est que un coup d'accélérateur énorme a été donné à ce nouveau canal de distribution dont aucun acteur aucun distributeur, aucun fournisseur ne peut désormais être absent.
Et on peut imaginer que ce mouvement est en quelque sorte irréversible.
Je le pense, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que je vois. Je crois qu'une fois qu'on a appris à manier les outils, eh bien, c'est comme un peu rouler à vélo, ça ne s'oublie pas. Et donc on aura le réflexe de plus en plus chacun de véritablement acheter à la fois dans les magasins, le confinement nous aura peut-être donné très envie de sortir encore plus, mais aussi en raison de sa facilité sur Internet. Et les deux canaux sont vraiment appelés à coexister désormais, ce pourquoi les consommateurs seront prêts parce qu'ils l'auront appris à l'occasion de cette pandémie.
Bien sûr, nous sommes d'ailleurs tous habitués, les lecteurs du Journal des Tribunaux papier, ils sont habitués, par exemple, maintenant, de plus en plus, à entendre ces podcasts. Alors, en fait, il y a trois aspects sous lesquels, dans votre article, vous envisagez le sujet, et ce sont ces trois points de discussion que nous allons tout simplement reprendre. Vous avez abordé la matière du point de vue du consommateur, puis du distributeur et puis du fournisseur. Eh bien, si vous le voulez bien, passons-les en revue. Le premier aspect à envisager est donc celui du consommateur. Qu'y a-t-il de spécifique à noter à son égard ?
Alors, concernant le consommateur, c'est évidemment l'existence de ce droit de rétractation qui doit être relevé, un droit dont il dispose dès qu'il y a contrat à distance. Et il me semblait vraiment utile, dans le contexte actuel, de reprendre toutes les prévisions légales pour se rendre compte de leur sévérité, une sévérité qui probablement se justifie à une époque où la vente sur Internet était marginale par rapport aux autres modes de distribution. Et il faudra s'interroger si on peut préserver une telle sévérité à partir du moment où le commerce électronique prend une telle ampleur. Prenons un exemple. L'absence même d'informations sur le droit de rétractation est sévèrement sanctionnée par le législateur qui considère en fait que dans un cas pareil, même le délai de 14 jours en fait, ne commence pas et ce, pendant 12 mois. Pendant ces derniers mois, j'ai eu des clients qui m'ont contacté, m'informant de ce qu'ils réalisaient des ventes avec des clients habituels, et ça se faisait par téléphone. Ça ne se faisait pas par un site qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de créer. C'était des clients connus, ils n'ont pas nécessairement des conditions générales de vente, et certainement pas en ligne. Et bien donc, dans une hypothèse pareille, on aurait pu imaginer qu'un client de mauvaise foi, eh bien, réalisant la portée de la disposition légale, plusieurs mois après s'être livré le bien, pourrait encore le restituer, arguant de ce que l'absence de publicité donnée au droit de rétractation justifiait un retour, même des mois après la livraison. La loi va même jusqu'à considérer que dans un cas pareil, le vendeur n'a pas le droit à l'indemnisation pour l'éventuelle dépréciation du bien. Donc on voit vraiment comment dans un cas pareil, le vendeur se retrouve très mal mis et il me semblait utile quand même de reprendre alors toutes les dispositions légales et la façon avec laquelle elles encadrent de façon stricte le droit de rétractation et la protection du consommateur.
Tout à fait. Plaçons-nous maintenant du point de vue de celui que j'appellerais, que vous avez mis en deuxième rang, le distributeur. Quoi de particulier en ce qui le concerne?
Mais en ce qui concerne le distributeur, la question évidemment qu'il doit se poser, c'est ai-je le droit de vendre sur Internet? La question était évidemment d'une actualité brûlante ces derniers mois quand les magasins devaient fermer. Et là, alors, c'était l'occasion dans mon article de rappeler les règles de la distribution sélective, de rappeler la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui pose d'une part en réalité le droit pour chaque vendeur de vendre sur Internet, mais un droit qui ne peut pas s'exercer à n'importe quelle condition. C'est l'occasion de souligner toute l'importance des formules de distribution sélective où le fabricant travaille avec un réseau de distributeurs agréés par des critères qualitatifs, s'interroger sur la pertinence de ces critères dès lors que les ventes se font non seulement dans les points de vente physiques agréés, mais également sur Internet, s'interroger alors sur la possibilité pour un distributeur sélectif agréé de vendre via une plateforme tierce que ne connaît pas son fournisseur et donc avec laquelle il n'y a pas de contrat et donc aucune possibilité de contrôle du fournisseur sur la plateforme. Prenons un exemple très concret. Je suis un vendeur de montres. Certaines de mes montres sont des montres de luxe qui évidemment s'inscrivent dans un réseau sélectif. Ma boutique étant fermée, ben je décide de vendre ces montres sur Internet. Je n'ai pas le temps de créer mon propre site, alors je choisis d'être présent sur une plateforme tierce style Amazon. Mes fournisseurs pourront-ils s'opposer à ces ventes? Et si oui, à quelles conditions la sélectivité du produit sera-t-elle suffisamment démontrée pour qu'on puisse considérer qu'une vente sur Amazon, à proximité d'autres biens moins luxueux, est peut-être susceptible de porter atteinte à l'image de marque? Cette image de marque fait-elle partie de la qualité du produit, une qualité qui conditionne la validité du système sélectif? Voilà toutes ces questions que j'estime vraiment importantes de regrouper, et c'est ce que fait l'article lorsqu'il s'interroge sur les droits du distributeur.
Absolument, le lecteur aura l'occasion de s'en rendre compte sous peu, et alors arrivons-en maintenant aux fournisseurs. Que se passe-t-il en ce qui le concerne?
Alors, ceux qui me connaissent savent tout le prix que j'apporte à ce souci constant de ne pas faire du droit partisan. Donc, l'article ici l'illustre particulièrement puisque j'ai adopté le point de vue du distributeur, le point de vue du consommateur et alors aussi le point de vue du fournisseur qui, lui, évidemment, aussi se retrouve confronté à de nouveaux défis. Il est certain que le commerce électronique va peut-être rendre moins pertinents les points de vente physiques, ils n'en restent pas moins nécessaires parce qu'ils deviennent les ambassadeurs de la marque. Alors ils sont là pour créer un univers, plus nécessairement pour stimuler les volumes de vente. Dans ce contexte-là, on voit bien, on comprend que pour le fournisseur, il est important d'être lui aussi présent sur Internet, mais comment va-t-il le faire, à quelles conditions pour ne pas concurrencer son réseau? Et puis surtout, dans certains secteurs, et là je pense au secteur automobile, le marché, alors on disait qu'il était arrivé à maturité, et moi je pense qu'aujourd'hui on peut sans doute parler aussi d'une maturité déclinante, et donc là, le gâteau en tout cas n'est pas élastique. Comment se répartir le marché? Ça va nécessairement entraîner les fournisseurs à réfléchir à un nouveau calibrage de leur réseau. Qui vont-ils agréer? Ceux qu'ils ne garderont pas, comment les résilier? Ce sont toutes des questions qui existaient déjà, mais qui se retrouvent d'une actualité brûlante. Et dans mon article, j'ai choisi vraiment d'accorder l'attention à toutes les points de tension et les difficultés que j'ai pu rencontrer dans mes dossiers ces dernières années et que j'ai donc regroupé dans cette troisième partie de l'article consacrée au point de vue du fournisseur.
Et au fond, toutes ces réflexions sont un peu un appel à la capacité d'adaptation de tous les acteurs de ce théâtre.
Oui, et alors là, petit clin d'œil pour ceux qui liront les notes de bas de page, c'est qu'est-ce que nous avons entendu, une citation de Darwin disant que dans la nature, ceux qui survivent ne sont pas les plus intelligents, mais ceux qui ont la plus grande capacité d'adaptation. Et alors, en faisant des brèves recherches, eh bien, j'ai constaté qu'en fait, il semblerait que Darwin n'a jamais tenu ce propos. Alors, j'ai lu des commentaires amusants également de gens qui disent « Mais donc, si je comprends bien, ceux qui survivent, ce ne sont pas les plus intelligents, mais ce sont les médiocres, etc. etc. » Petit clin d'œil donc à ces références qui nous ont été servies à nauséam. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, chacun est appelé à réagir par rapport aux événements. Les distributeurs, les fabricants, les consommateurs, tous doivent réagir aux circonstances. Et ces réactions suscitent des questions juridiques. Ce sont toutes celles-là que j'ai tenté de rassembler dans l'article.
Voilà ce qui conclut cet épisode du podcast du Journal des Tribunaux. Je vous remercie, Laurent Dujardin, pour votre présence et votre participation à cette émission. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. Et je vous rappelle que le numéro du Journal des Tribunaux consacré au développement du commerce électronique sera disponible ce 26 septembre sur larcier.com.